Bonjour et bienvenue sur Homo Ludens, le podcast qui libère le potentiel du jeu. Dans chaque épisode, un acteur du monde du jeu témoigne des bénéfices du jeu dans son domaine d'activité.
Aujourd'hui, j'accueille Stéphane Clou. Stéphane est directeur de la coopérative d'intérêt collectif Ludomonde. Dans cet épisode, nous abordons le sujet des jeux sportifs. Nous verrons en quoi ils sont différents des activités sportives et l'intérêt de les utiliser dans le monde du travail. Bonne écoute. Bonjour Stéphane Clou, bienvenue sur Homo Ludens. Peux-tu nous dire qui tu es et ce que tu fais ?
Bonjour Mathieu, merci de m'inviter à ce podcast. Donc je suis Stéphane Clou, je suis directeur de la coopérative d'intérêt collectif Ludomonde et je travaille avec l'outil jeu et en particulier avec les jeux sportifs.
Est-ce que peut-être tu peux nous en dire un peu plus sur ce qu'est Ludomonde ?
Alors Ludomonde, c'est une structure qui a proposé du jeu, soit dans le socioculturel, soit au niveau des entreprises, des animations, de la formation, de la gamification. Et puisque je m'intéresse au jeu depuis toujours, j'ai testé un peu créé toutes sortes de jeux, que ce soit jeu de société, jeu de rôle, Murder Party, etc. Bon, après, en amateur. Et puis, je m'intéresse aussi aux sciences humaines. Et ma philosophie, on va dire, à Ludomonde, c'est le jeu à l'éclairage des sciences humaines, comment bien utiliser l'outil jeu au service des entreprises ou des professionnels.
Et du coup, tu nous as parlé de jeux sportifs. Quelle différence fais-tu entre le sport et un jeu sportif ?
Alors, un jeu sportif, de manière générale, ça va être une activité corporelle avec de la compétition. Le sport, on va y rajouter un caractère figé des règles et un caractère institutionnel. C'est-à-dire dans le sport, on a des clubs, des fédérations, de la hiérarchie, un classement. Ça va être vraiment une grosse différence. Et donc, moi, je m'intéresse plus particulièrement aux jeux sportifs qui vont demander quasiment aucun matériel ou juste un ballon et qu'on va pouvoir jouer dans un parc, dans un gymnase, qui vont être assez accessibles.
D'accord.
Je peux vous dire peut-être une petite différence, vraiment la différence que je trouve entre les jeux sportifs et les sports. La première chose qui me paraît importante, c'est au niveau des structures relationnelles. Les sports reposent essentiellement sur des duels d'individus ou des duels d'équipes. Et donc, on est vraiment sur une opposition et sur de l'exclusion aussi, puisqu'en fait, il y a une équipe qui gagne, une équipe qui perd. Souvent, dans l'équipe, il y en a qui ne vont pas forcément trouver leur place, qui vont être plus mauvais, et donc, ils ne seront pas trop mis en jeu, justement. Et contrairement à beaucoup de jeux sportifs qui existent, entre autres des jeux sportifs traditionnels, où on va être plutôt dans ce qu'on appelle une compétition partageante, où là, il va y avoir plein de structures déjà différentes, chacun pour soi, un contre tous, plusieurs équipes qui s'affrontent, ou des jeux 100% coopératifs. Et donc, on va vraiment être sur plutôt un vivre ensemble. Il ne va pas forcément y avoir de victoire à la fin d'un jeu, par exemple. Ce n'est pas pour ça qu'il n'y aura pas des victoires, mais qui seront un peu comme des épiphénomènes, des petites marques de réussite ou d'échec qui vont arriver pendant toute la durée du jeu. Mais à la fin, finalement, on ne se souvient pas qui a gagné, qui a perdu. C'est un peu comme les enfants qui jouent à chat. Vous voyez, pendant 30 minutes, quand ils arrêtent, tout le monde a gagné, en fait, parce qu'il y a eu victoire, défaite. Et donc, on est vraiment là sur une expérience partagée qui est plutôt fun, plutôt commune. Mais on n'a pas de dominant-dominé.
Et comment en es-tu venu à t'intéresser, du coup, aux jeux sportifs ?
Alors, c'est en 2012, j'ai rejoint un groupe de recherche au CMEA, qui est une grosse asso d'éducation populaire. C'est le groupe de recherche sur les jeux et les pratiques ludiques qui est dirigé par le sociologue Pierre Parlebas. Et où en fait, ils réfléchissent beaucoup sur ces jeux sportifs. Et c'est tout un courant de la sociologie critique du sport qui justement veut avoir un regard distancié par rapport au monde du sport institutionnel, puisque dans notre société, le sport est extrêmement valorisé, parce qu'il y a des enjeux financiers aussi énormes. Le sport est extrêmement angélisé, en fait. On lui adjoint soi-disant des valeurs, on lui adjoint des effets extrêmement bénéfiques, etc. Mais en fait, quand on regarde ce que produit la recherche, on peut avoir un regard plus nuancé et plus critique sur les pratiques physiques. Et puis, suite à ça, bah, j'ai repris les études il y a quelques années aussi, et j'ai fait un mémoire de master sur les jeux sportifs, qui avait comme intitulé Jeux sportifs, bien-être, coopération et monde du travail. Parce que justement, je voulais vraiment approfondir cette question et voir en quoi certains jeux sportifs pouvaient être plus efficaces que d'autres pour créer de la coopération au sein d'équipes.
Alors, tu nous as parlé de sport institutionnel ou institutionnalisé. Et j'ai lu aussi que tu parlais de jeux sportifs traditionnels. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu mets derrière ces deux termes?
Alors, le sport institutionnalisé, ben en fait, c'est le sport tel qu'on le retrouve de manière générale en club, le foot, le basket, hein, etc. Le jeu sportif traditionnel, ça va être un type de jeu sportif, ça va être les jeux qu'on retrouve souvent dans les centres de loisirs, le renard vipère, la balle au chasseur, la balle assise, ces types de jeux. Et puis, on pourrait rajouter aussi quelques jeux. 100% coopératives, qui peuvent être les jeux qu'on retrouve aussi un peu dans le monde de l'agilité, ou qu'on trouve pas mal aussi au Canada. Ils ont une réflexion sur les jeux sportifs coopératifs pas mal poussés là-bas. Voilà, c'est un petit peu tous ces jeux-là.
Et ben, tu nous as parlé de jeux sportifs qui sont utilisés notamment en centre de loisirs, mais là tu viens de nous parler aussi de jeux sportifs utilisés pour l'agilité. Quels sont les thèmes en fait que l'on peut aborder avec des jeux sportifs dans le monde du travail?
Alors, dans le monde du travail, on peut vraiment aborder beaucoup de thèmes. Il y a tout un champ à exploiter. Ça peut être la coopération. Ça, c'est ce qui va être le plus évident quand on demande du team building. Ça peut être la résistance au changement. Ça peut être la créativité. Ça peut être un travail sur la mise en jeu des soft skills. Mais pour que cela soit vraiment intéressant, pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de créer un parcours pédagogique autour de l'activité. C'est-à-dire, il faut vraiment penser que le jeu n'est pas magique en soi. Il faut pas l'angéliser. Il y a trop de professionnels qui travaillent dans le monde du jeu, et comme c'est des passionnés, bah, ils ont tendance à survaloriser en fait ce qu'ils font. Et donc, le jeu, c'est intéressant, mais moi, je suis partisan un peu. C'est un peu comme Jérôme Bocquet, hein, qui est déjà intervenu dans d'autres podcasts. C'est le jeu tout seul, ça suffit pas. Donc, c'est pour ça que je travaille aussi avec des coachs et des consultants. Comme Jérôme, justement, pour élaborer des parcours pédagogiques. C'est soit on veut juste une activité team building qui va favoriser la cohésion du groupe à court terme, et là en effet, avec un animateur qui est expert, ça suffit. Mais si l'entreprise elle veut s'engager dans une démarche plus longue, parce qu'à un moment donné, elle veut vraiment travailler des process en profondeur, elle a des grosses problématiques, et ben là vraiment le consultant, il a un rôle très important. En partenariat justement avec l'animateur spécialisé, avec le spécialiste du jeu, avec le game designer. C'est vraiment l'équipe qui va rendre la proposition plus pertinente.
Alors, qu'est-ce que peut apporter un jeu sportif? Quels sont les avantages d'utiliser un jeu sportif justement dans un parcours pédagogique?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a pas eu beaucoup encore de recherches vraiment scientifiques sur les jeux sportifs et le monde du travail, parce que en termes d'effets, de résultats, etc. Déjà, c'est compliqué pour les chercheurs d'intervenir, parce qu'il peut y avoir des pressions des syndicats. Est-ce que les données vont être données au patron, etc. Donc c'est assez compliqué. Par contre, donc moi j'ai fait mon mémoire de master là-dessus, mais mon mémoire, voilà, ça reste. Il faut être modeste, voilà, je cherchais mon mot, c'est-à-dire qu'un mémoire, ça ne prouve pas grand-chose, un mémoire de master, il faut rester modeste, donc on est sur des hypothèses, mais c'est des hypothèses qui pour moi s'appuient sur des vraies recherches qui ont été faites, mais plutôt dans le domaine de l'enfance. Dans le domaine de l'enfance, la psychologie, la sociologie a montré qu'en effet, les jeux sportifs et les sports avaient des effets. Donc, c'est de ça dont je peux vous parler un petit peu pour ensuite, après, faire le parallèle, hein. Ce que les recherches ont pu montrer, déjà, c'est que les sports ont tendance à augmenter les comportements hostiles, en fait, entre individus. Les sports institutionnels, le basket, le foot, etc. Parce qu'on est vraiment dans l'opposition, on veut dominer. Voilà, il peut y avoir de la violence qui est inclue dans les règles. Hein. Si on regarde le foot, bah, au foot, on a le droit de rentrer dans quelqu'un à grande vitesse pour le tacler, pour lui donner un coup d'épaule. Donc déjà, la règle elle-même va inciter à la violence, même si on n'est pas violent. Et donc, il y a des chercheurs comme Luc Collard à Paris 5 hein, qui ont montré qu'au niveau de l'enfance, en faisant des recherches dans les écoles sur des groupes qui étaient suivis, qui étaient évalués toute l'année, des groupes d'enfants qui ne faisaient pas de pratiques sportives et d'autres qui faisaient des sports 3-4 fois par semaine, bah, à la fin de l'année, les comportements hostiles étaient plus grands dans le groupe « sportifié », entre guillemets. Parallèlement à ça, d'autres recherches ont vraiment analysé les jeux qui sont plus, je vous disais au départ, hein, les jeux sportifs de centre de loisirs, etc., que les chercheurs appellent les jeux à compétition partageante, ou alors les jeux 100% coopératifs, et cela favorise vraiment les comportements amicaux et l'intégration sociale, ils réduisent les conflits, il y a moins d'enfants isolés, etc. Donc ça, c'est entre autres, c'est beaucoup de chercheurs espagnols, l'équipe de La Vega, qui ont travaillé autour de cette thématique. Et puis le troisième point, ça va être sur les émotions positives. En quoi, en effet, quelles sont les émotions positives dans le sport? Quelles sont les émotions positives dans les jeux sportifs? Eh ben, dans le sport, ce qu'on remarque, c'est que si on gagne, grosse émotion positive, bon, si on perd, grosse émotion négative, dans le sport institutionnel. Par contre, quand on est sur des jeux plus à compétition partageante ou coopératif, bah là, on est majoritairement sur des émotions positives. Il y a très peu d'émotions négatives, parce que justement, il n'y a pas cette équipe qui est perdante à la fin du jeu. Vous voyez, à un moment donné, c'est plus facile de trouver sa place, tout le monde gagne plus ou moins, il y a pas mal de jeux aussi où il y a des changements de rôle, donc on se retrouve tout le temps plus ou moins en situation de réussite. Donc là, sur les émotions positives, c'est les Espagnols ont bossé aussi dessus. Il y a aussi des Suisses comme le chercheur Enrico Ferretti. Il y a pas mal de choses qui ont été faites. Et donc, moi, mon hypothèse, c'est que, en fait, on va arriver à ces mêmes résultats avec les adultes. Il n'y a pas de raison. Et après, c'est ce qu'on a observé aussi de par nos expériences. On a bossé avec des cadres de la CFDT, une centaine. Avec le groupe des CMA, justement, là, on avait fait une intervention des salariés de 30-40 ans, et on avait vu que vraiment, ça marchait bien, ils étaient vraiment sur le vivre ensemble, il y avait des bons retours, ça favorisait la coopération sur le terrain. Et puis pareil, pour les salariés de Decathlon que j'ai fait jouer dans le cadre de mon master, que j'ai filmé, que j'ai interviewé, et dont j'ai analysé la pratique, on sentait bien qu'il y avait ces résultats-là en termes d'intégration, d'émotions positives.
Est-ce que tu distingues différents types de jeux à compétition partageante? Est-ce qu'il existe une espèce de catégorie, de classement?
Alors, un petit peu en termes de structure relationnelle, j'en avais déjà un petit peu parlé dans ceux qui sont chacun pour soi, un contre tous, une équipe contre les autres. On a les changements de rôle, on a aussi ce qu'on appelle le réseau paradoxal. C'est-à-dire, c'est des jeux où, sur le moment, on va choisir si quelqu'un qui est en face de nous est notre ami ou notre ennemi, ce qu'on ne voit jamais dans les sports. J'ai la balle, vous êtes en face de moi, je décide soit je vous touche, soit je vous fais une passe au sol. Vous voyez, sur le moment, ami ou ennemi. Donc la personne, elle me regarde avec un sourire, un hésitement, une hésitation, pardon, et ça amène beaucoup d'humour, beaucoup de situations qu'on n'a pas du tout dans les sports institutionnels. Il y a vraiment toute une richesse relationnelle à exploiter qu'il n'y a pas dans les sports institutionnels.
Est-ce que du coup, il y a des critères qui te permettent de choisir un jeu plutôt qu'un autre en fonction du thème que tu souhaites aborder avec le groupe?
Alors oui, je vais réfléchir à justement ce qu'on appelle la logique interne du jeu. C'est-à-dire en quoi les règles du jeu, en quoi... sa manière de fonctionner est susceptible de procurer tel ou tel effet pendant le jeu ou après le jeu.
D'accord. Et alors, tu nous as parlé du parcours pédagogique. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu prépares avant ou après une séance qui inclut du jeu sportif, justement, comment se construit ce parcours pédagogique ?
Alors, soit ça va être un parcours pédagogique avec un consultant, un partenaire, et dans ce cas, il y a vraiment rencontre de la personne qui nous commande ce travail pour changer l'organisation, avec un audit, avec une étude du contexte, voilà, des réunions avec les managers, etc. Et puis voir sur quoi on veut travailler, qu'est-ce qu'ils veulent changer. Et à ce moment-là, après, on va vraiment construire, choisir les jeux en fonction de ces objectifs-là. Soit on va être quelque chose sur plus, en effet, du one-shot ou quelque chose qui va juste venir comme ça un petit peu sur un séminaire pour faire de la cohésion. Et à ce moment-là, il n'y a pas besoin d'aller aussi loin dans le consulting. C'est un peu au choix de l'entreprise. La session, après, en elle-même, pour rentrer peut-être un peu plus dans le détail, va y avoir un temps d'échauffement, parce que c'est important pour les adultes. On ne peut pas oublier, dans tous les cas, la sécurité. Et puis après, ça va être une succession de jeux qui vont durer en fait entre 5 et 15 minutes, explication de règles incluses. Et l'idée, moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment de faire une progression pour que ça aille de plus en plus vers la coopération. C'est-à-dire, on commence avec des jeux à compétition partageante, justement, on a encore éventuellement quelques marquages de points, des équipes qui s'affrontent, ou des binômes qui s'affrontent, ou alors chaque joueur affronte les autres joueurs, et là, on est dans de la compète, mais par contre, on est quand même dans le vivre ensemble. Et puis, après, on avance sur d'autres types de jeux qui peuvent être des jeux de confiance où certains joueurs vont avoir les yeux bandés, vont devoir mener d'autres joueurs, où on va devoir se supporter les uns les autres dans de l'équilibre, par exemple. Et puis, des jeux 100% coopératifs où vraiment on va tous avoir une tâche commune à réaliser et on va devoir tous gagner ensemble. Et on voit à la fin dans ce processus que je mets en place qui dure 1h30, 2h, et ben il y a une émulation et les salariés s'applaudissent, ils sont contents et à la fin on est vraiment sur quelque chose voilà où il y a eu des émotions positives, on a tous réussi ensemble et on est content quoi. Voilà, en gros. Alors que si on veut jouer deux équipes de salariés au foot, voilà, on pense ça comme un team building, bah à la fin, il y en a un, elle peut être dégoûtée parce qu'elle a perdu, puis avoir eu des tensions qui sont arrivées pendant le jeu. Vous voyez, ça va pas procurer du tout les mêmes choses.
Ouais. Est-ce que tu prévois une espèce de période de débriefing à la fin, quelque chose qui permette aux personnes de mettre des mots sur ce qu'elles ont vécu ?
Oui, exactement. Donc soit après, là, si c'est un one-shot, ça va être un petit débrief avec les salariés, en effet, ils peuvent, pour leur ressenti, ils peuvent éventuellement après faire des analogies avec le monde du travail s'ils le veulent. Soit après, en effet, si c'est dans un parcours pédagogique, bah là, ça va être construit avec le consultant. Et là, on va avoir une vraie réflexion sur comment on fait le transfert et comment on arrive après à en tirer de bonnes règles, de bons outils pour changer les pratiques du travail, pour changer les process. Et après, ça veut dire qu'il faut encore travailler sur des exercices concrets, pratiques, pour justement changer les process avec le consultant. Dans ce cas, le jeu ne se suffit pas à lui-même, on va encore plus loin.
Alors, est-ce que du coup, c'est le... Donc, tu nous as dit que tu travailles notamment avec des consultants. Est-ce que c'est le consultant qui fait appel à cette forme de jeu qu'est le jeu sportif, ou est-ce qu'il y a l'entreprise aussi qui est demandeuse de ce type de jeu ?
Ça peut être un peu les deux. Là, par exemple, il y a un consultant qui a fait appel à moi pour faire un partenariat parce que, justement, il forme des managers de boutiques de vente. Et dans son processus de formation, il veut un peu les challenger sur leurs soft skills, voir quelles sont les bonnes pratiques, essayer de faire ressortir ça. Et puis, il m'a dit, voilà, si on pouvait gamifier la chose. Pour faire une présentation différente, pour révéler des choses de manière différente, créer plus d'engagement. Donc là, voilà, ça va être un partenaire qui vient me chercher, ou alors ça peut être l'entreprise qui demande en premier, et c'est à nous dans la discussion de voir si elle veut juste de l'activité ou s'il y a besoin de choses, de travailler des choses plus en profondeur, s'il y a une vraie volonté, s'il y a un budget, etc.
Alors, au début, tu nous as parlé de quelques difficultés pour mener notamment des recherches sur ce type de jeu. Donc, tu as manifestement des réticences de la part de certains acteurs du monde de l'entreprise. Est-ce que tu rencontres aussi des réticences de la part de personnes qui sont des stagiaires
Qui vont être les
du
participants.
parcours,
Qui vont
des
être les participants.
participants, pardon, voilà, oui. Est-ce que
Bon,
ça
pour
arrive?
l'instant, j'en ai pas rencontré, mais ça peut arriver. Parce que comme dans toute activité team building ou comme dans toute formation, où il y a des consultants, etc., il peut y avoir des réticences, ça peut être imposé. Donc là, on va dire que ça va être l'expérience du formateur, du consultant, qui fait qu'en fait, il faut toujours vraiment se renseigner en aval, bien discuter avec les salariés. Pour désamorcer les tensions, pour savoir est-ce qu'ils sont là, enfin voilà, qu'est-ce qu'ils attendent de ce temps. Bien discuter au départ avec le client aussi qui commande la prestation, pour vraiment bien comprendre. Tout ça, ça permet justement de préparer le terrain pour éviter qu'il y ait des tensions. Et après, si jamais quelqu'un est réticent à faire un jeu, moi, mon parti pris, c'est de ne pas l'obliger. Une des forces, c'est que la plupart de ces jeux ont une très forte accessibilité. C'est-à-dire qu'il y a très peu de compétences techniques déjà à avoir, contrairement au sport institutionnel. Puisque je vous disais, la plupart, ils se jouent sans matériel ou alors éventuellement une balle en mousse. Il y a souvent aussi des jeux où chacun peut trouver sa place beaucoup plus facilement, puisqu'on va avoir des rôles différents, des rôles plus simples que d'autres. On n'est pas forcément obligé de se donner à fond au niveau énergie. Il peut y avoir des rôles où, par exemple, on va garder un endroit où il y a un trésor, où il y a des jetons. Et donc, on doit juste toucher les gens qui approchent. Et puis, il y en a d'autres, ils vont devoir se taper des sprints. Et donc, on peut choisir son rôle aussi, vous voyez. Il y a une plus grande souplesse que dans les sports.
Bah du coup, est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples un peu concrets de jeux qui peuvent être utilisés dans ce cadre-là, dans le cadre du coup du monde de l'entreprise? Alors, tu nous as beaucoup parlé, par exemple, pour travailler sur la coopération, mais peut-être que si tu as d'autres thèmes que la coopération, ça pourrait être intéressant.
Alors, avec des noms de jeux concrets, peut-être, c'est ça aussi?
Des noms de jeux et puis un petit peu comment ça se déroule.
D'accord. Alors, par exemple, on aime bien utiliser le Kinball. Le Kinball, c'est un jeu sportif où il y a une balle énorme qui fait 1,20 m de diamètre. Et donc là, on est vraiment sur quelque chose de très original qui casse les codes sportifs au départ. En plus, il y a trois équipes qui s'affrontent. Donc c'est très rare dans les sports, c'est vraiment quelque chose qui est différent. Et puis on va pas forcément être sur un comptage de points. Là c'est pareil, ça peut être une victoire sur le moment. Voilà, ça c'est pour vous donner un exemple de jeu très original qu'on utilise. Après on peut être sur d'autres jeux comme la balle assise, où là on va être sur un jeu paradoxal, pareil, où il n'y a pas forcément de victoire à la fin, où on choisit ses amis, ses ennemis sur le moment, où il y a de la coopération parce qu'on se fait des passes pour se délivrer. Donc on va pouvoir mieux connaître ses partenaires. Sur d'autres objectifs, on va pouvoir travailler la confiance. La confiance en soi, la confiance aux autres. Et ça va être avec des jeux. Par exemple, on aura les yeux bandés. Donc plusieurs personnes peuvent avoir les yeux bandés, et puis il y en a un qui les mène à travers un parcours d'obstacles, qui va être mis avec des plots, avec des poteaux. Dans d'autres jeux qui vont favoriser la confiance, on pourra avoir des jeux d'équilibre, où on doit porter quelqu'un, où on se laisse tomber sur d'autres personnes, mais tout ça vraiment encadré de manière sécurisée, avec voilà, pour les jeux les plus touchy, on va dire, ben on prend que les volontaires. C'est-à-dire s'il y en a qui vraiment ne se sentent pas de le faire, ils ne le font pas. Voilà en gros pour quelques exemples.
Ok, merci. Et du coup, pendant ces jeux, quelle place a le formateur ou l'animateur pendant un jeu sportif?
Alors, bah, la place de l'animateur, elle est extérieure, hein. C'est-à-dire que je participe pas, il participe pas, mais par contre, il est garant, bah, de la compréhension du jeu, de la règle. Et il veille à ce que chacun trouve sa place, chacun se sente à l'aise. C'est important de gérer aussi le tempo des rotations de jeu. Il faut sentir quand est-ce que le groupe se lasse, quand est-ce qu'il veut passer à un autre jeu. Donc il y a vraiment un côté empathique et c'est ce qui fait que l'animation, c'est aussi un vrai métier, hein. C'est un vrai talent d'être animateur. Et particulièrement pour les team building de cohésion, l'idée c'est vraiment de mettre le groupe en réussite. Surtout lorsqu'il y a les jeux de coopération, plutôt à la fin de la séance, fin du cycle, on fait tout en fait pour qu'il y ait vraiment une réussite, une émulation, un sentiment positif de vivre ensemble et que le groupe voilà, s'applaudisse, qu'il soit pas en échec. Donc bien sûr, on peut aussi un petit peu tricher quand on est animateur pour faire que le groupe réussisse, mais ils s'en rendent pas compte, ils s'en rendent pas forcément compte. Voilà.
D'accord. Alors, quel conseil souhaites-tu donner aux personnes qui aimeraient utiliser des jeux sportifs?
Alors, de se former sur ce genre de jeu, mais c'est vrai que c'est beaucoup moins, il n'y a pas de formation officielle, c'est beaucoup moins étudié que les sports institutionnels. Hein. Si on regarde à la fac, il y a un master, à ma connaissance uniquement à Paris 5, sur santé psychosociale par les activités physiques, sur lesquelles il y a cet enseignement. Mais c'est vrai que sinon, il n'y a pas grand-chose. Je pourrais conseiller les fichiers jeux CMEA, puisqu'il y a des fichiers qui sont produits, et donc en effet qui expliquent bien ce genre de jeu avec les intérêts. Et puis sinon, j'invite ceux qui sont intéressés à se rapprocher de moi, de Ludomonde, pour avoir des ressources. Je pourrais envoyer soit des articles, soit pour en parler. Je pourrais échanger avec plaisir.
Super. Alors du coup, on arrive à la fin de notre enregistrement. Est-ce que tu as un jeu que tu souhaites nous recommander?
Alors, pour rester dans le jeu sportif traditionnel, il y a un jeu qui n'est pas très connu, mais qui est super, hein, par son originalité, que je conseille, qui s'appelle Les Barres. Donc, le jeu des Barres, c'est un jeu qui était joué par Roland Barthes, par exemple, au début du XXe siècle, ou encore qui était joué par Napoléon. Et c'est un jeu qui se joue en deux équipes qui s'affrontent. Et c'est le seul jeu qui mêle les notions d'espace et de temps, puisqu'en fait, la règle principale, c'est que pour pouvoir toucher les adversaires, il faut rentrer sur le terrain après eux. Voilà. Je n'en dis pas plus.
D'accord.
Ceux qui sont curieux iront voir sur Internet.
Il y a aussi une fiche CMA sur le jeu.
Tout à fait. Voilà, une fiche
Tout
EMEA
à fait,
sur ce
ok. Donc on
jeu.
pourra le retrouver là-bas.
Exactement.
Alors est-ce que tu connais une personne qui utilise le jeu dans son activité professionnelle et dont tu aimerais entendre le témoignage dans un prochain épisode?
Alors, je pensais à Guillaume Lenoble de la société Belou Games, qui est un spécialiste, lui, des jeux de société coopératifs. Et il a développé il n'y a pas longtemps un jeu sur, la qualité de vie au travail. Comment améliorer la qualité de vie au travail en faisant ce jeu avec les salariés pour leur faire prendre conscience un petit peu de toutes les bonnes pratiques qu'il y a. Voilà, je pense que ça serait intéressant de l'entendre témoigner là-dessus.
Donc un jeu de plateau.
Exactement.
Super, ok, merci. Et si on souhaite en savoir un peu plus sur toi, sur Ludomonde et puis sur les jeux sportifs, où est-ce qu'on peut trouver des ressources? Donc tu nous as parlé de CMA.
Et ben écoutez, moi j'ai un LinkedIn, Stéphane Clou, j'ai un Facebook, Steph Ludomonde, et sur notre site web, voilà, il y aurait aussi pas mal d'infos, ludomonde.coop, comme une coopérative. Et d'ailleurs, on a posté il n'y a pas longtemps là une petite vidéo sur les jeux sportifs. Donc voilà, vous pourrez voir ça pour que ce soit plus concret de manière visuellement.
Super. Ben merci beaucoup Stéphane Clou.
Ben merci beaucoup Mathieu pour cette invitation.
Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode.